femme.
Oui.
À cause de la
à cause de la pilule.
Alors, du coup, par rapport au mariage, par rapport à l'église.
Eh bien, l'infertilité, la stérilité est une maladie. Elle n'empêche pas le mariage. Mais par contre, si on est certain d'être stérile avant le mariage, il faut que le fiancé ou la fiancée le sache absolument. Sinon, le mariage est nul. Il faut, quand on fait le sacrifice de, comment dire, de la possibilité d'enfant naturel à cause d'une maladie, il faut le savoir. Mais deux personnes ménopausées et, ou avec andropause et ménopause peuvent se marier. L'acte sexuel est plus difficile, tout ça, enfin, mais l'acte sexuel est toujours possible. Et par l'âge, l'enfant ne vient pas. Mais l'acte reste naturel. Et si le corps est épuisé, ben c'est par l'âge. Mais l'acte sexuel reste naturel. L'âge est une maladie stérilisante. Mais il y a des maladies qui ne sont pas liées à l'âge. Vous avez des trompes abîmées, vous avez une infection, vous avez une ablation. Et là, actuellement, alors ça va vous faire rire, décidément. Vous savez que dans l'autre ville, vous avez tellement de pilules. Que les hommes ont, se prennent des hormones féminines par paquet de mille lorsqu'ils boivent de l'eau du robinet. Et donc vous avez une qualité du sperme masculin qui est en baisse à cause de l'eau de ville.
Je les embouteillages aussi, parce qu'on reste au chaud trop longtemps.
Oui, ça c'est plus pour les chauffeurs de camions.
Ouais. Ceux qui passent dans les taxis.
Lorsque les testicules sont chauffés trop, ça tue le sperme. Mais bon, ça c'est. À ce moment-là, il faut le savoir, il faut s'aérer ou je sais pas quoi. Il y a des médecins pour ça. Mais oui, mais quand on veut des enfants. Quand on veut des enfants. Alors, l'adoption n'est pas obligatoire. Mais elle est vivement recommandée, mais pas obligatoire. Comment envisageons-nous la régulation des naissances? Eh bien, la vieille méthode, c'est la continence. Les méthodes plus récentes, c'est les températures ou la glaire vaginale. C'est ce qu'on appelle la méthode Billings. C'est-à-dire que quand vous êtes fécond, mesdames, eh bien vous avez une glaire qui va filtrer les spermatozoïdes et qui va obliger les spermatozoïdes faibles ou mal formés à crever, pendant que ceux qui sont en pleine forme vont traverser la glaire, qui est une sorte de, comment dire, de sécrétion des muqueuses qui est à son maximum lors de l'ovulation. Donc quand vous avez un vagin qui est sec, bah du coup et que les températures tout ça, vous n'êtes pas en ovulation. Alors donc il y en a qui calculent 10 jours. Waouh, voilà. Toc. Pourquoi? Ben on a déjà 3 enfants, on a l'appartement à payer, Seulement, voyez-vous, ensuite, quand vous faites confiance à la Providence, il vient pas. Alors là, je vais vous désespérer. Vous dites, je ne vais pas avoir d'enfants, on va prendre la pilule, tout ça c'est des conneries. Donc on a une mère de famille hyper catho. Voilà, donc... elle a fait la méthode Billings et tout ça. Imaginez, elle aurait eu 17 ou 18 enfants si elle n'avait pas fait la méthode Billings. Et là, elle a son 10e enfant. À 51 ans. Eh bien, vous savez, le couple est très... Alors, il triche, il est colonel. Donc, il a de l'argent. Vous savez... un salaire de colonel, Ils ont un logement de fonction. Alors là, ils ont un 7 pièces, hein, c'est vrai. L'armée concède un appartement pour famille nombreuse. Mais 51 ans, l'obstétricien, il n'en revenait pas. Il dit, et ça marche encore, et ça marche encore. Et c'est une santé d'acier, hein, la maman. Et là, ça rigole pas.
10 enfants. Ouais.
Oui, mais hey, 51 ans.
Ouais,
bah. Eh bien, voyez-vous, l'un et l'autre ont cette touche de fierté de jeunes parents incroyable, qui me conforte dans mon intégrisme. C'est juste. Je ne pourrais jamais abandonner la loi naturelle. C'est, ça se vit, quoi. C'est des gens que je connais depuis 2 ans et demi. Une touche de fierté incroyable. Alors qu'elle va en baver, comme en 40, tout ça. Mais attention, la famille nombreuse est profondément naturelle. La maman ne s'occupe pas à 100% des nouveaux enfants. Vous avez tous les frères et sœurs qui sont là. Elle, vous avez déjà les filles qui sont sur les starting blocks et qui vont arracher cet enfant à leur maman pour pouponner l'enfant. Ça va être une bataille à la maison. Ça, c'est sûr. Imaginez une fille de 12 ans qui a un poupon. La maman, elle va... ça va... Bon. Excusez-moi, c'est indécent, c'est trop... C'est catholique, je sais pas. Quoique vous avez les Amish, hein, qui sont des protestants puritains, qui rigolent une fois par an, quand on leur écrase le pied. Et vous avez le film Witness avec Harrison Ford. Donc ils n'ont pas de boutons parce que ça fait riche et tout ça. Enfin, oui, ça rigole une fois par an. Hein. Quand vraiment, il y a la charrue qui passe sur le pied. Voilà, donc vous voyez une esquisse de sourire. Et donc, ils ont tous la barbe, parce qu'on ne se rase pas, ça ne se fait pas, voilà. Mais ils sont d'une solidarité délirante. Ils sont riches à millions parce qu'ils cultivent des terrains incroyables, mais ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Alors, à mon avis, quand même, à un moment donné, bon, entre protestants, on peut toujours s'arranger. L'argent doit être placé. Mais, bon, voilà, ils vivent comme au XVIIe siècle. Donc, voilà. Le seul danger pour eux, hein, c'est l'endogamie. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont des... Donc, ils doivent se marier de région de Pennsylvanie à région de Pennsylvanie. Parce que sinon, ils ont le truc en plus dans la case en moins, hein, donc et qui sort pas de la famille, hein, c'est voilà. Bon, quels sont nos désirs et nos craintes, hein? L'enfant, l'injuste agresseur, on va être pauvre. Avons-nous le désir, ils ne pourront pas faire d'études? Ben, figurez-vous que non. Ouais. C'est peut-être de nos jours, d'ailleurs, qu'on a vu des ascenseurs sociaux être en panne en banlieue. Mais il faut quand même savoir que Pompidou était le fils d'un instituteur d'Auvergne. Hein. Ouais. Avons-nous le désir de nous informer, de nous former pour vivre nos choix de la façon la plus responsable dans ce domaine? Avons-nous pu envisager le cas d'avoir un enfant handicapé, physique ou mental? Voilà, vous êtes parents à vie. Bon, vous avez des associations qui vous aideront, et les associations, la plupart du temps, catholiques. Parce que les autres, 95% des enfants en trisomique sont éliminés. Moi, hier, dans le métro, j'ai vu 3 copains, dont un trisomique, alors qu'il parlait, mais alors, comme les deux autres, donc une trisomie assez légère, c'était impressionnant. Il devait avoir 25 ans, 28 ans.
S'ils sont accompagnés tôt...
Ça dépend. La trisomie peut être plus ou moins sévère.
La trisomie doit être légère quand même.
Ben oui, mais voilà. Moi, j'avais vu un trisomique de 14 ans, un peu sévère, qui reste enfant. Il était là, comment dire, il était avec ses parents, bon, il était fatigué, il s'est assis, et je me suis dit, bon, on l'avorte, ou je lui, maintenant que c'est raté, qu'on ne peut pas l'avorter, je lui file une balle dans la tête, pour soulager ses parents. La loi n'ose pas encore tuer après la naissance. Mais ne vous inquiétez pas, au temps de l'Antéchrist, ça se fera. Tous ceux qui pèseront sur le bonheur et l'équilibre de la société seront éliminés, même après la naissance. Mais ça, c'est l'Antéchrist. Hein. Ça... Lisez 1984 de George Orwell et vous aurez une toute petite idée de ce qui peut nous attendre dans la société du bonheur et de l'épanouissement. Enfin, du coup, moi, je vous dis, c'est Lino Ventura qui a eu un enfant handicapé. Mais avec l'argent de ses cachets, il a fait le personnage. C'était un saint homme, hein, Lino Ventura. Il a pas seulement fait ça, hein, mais c'était quelqu'un qui, dans le monde du spectacle, dans le monde des acteurs, était quelqu'un de très intègre. Avons-nous pu envisager le cas de stérilité? Voilà. Et voilà. Que représenterait pour nous la possibilité d'adopter? Alors moi, je vous le conseille de tout cœur. C'est très méritoire. Et alors du coup, moi, je récolte les expériences humaines. Hein. On a un couple qui a adopté des bébés. Mais des bébés vietnamiens. Donc du coup, l'enfant, quand il grandit, il dit « Tant, on n'a pas la même tête. » Il regarde, il voit que quand on a une tête comme ça, c'est parce qu'on a des parents comme ça, donc c'est pas mes parents. Et ben, une des deux n'a vu que l'amour et le temps qu'ont donné ses parents adoptifs, donc pas une hésitation, et l'autre, oui, enfin, ce sont mes parents, tout ça. Adoption, 3 ans, 6 ans. 6 ans, la fille. 3 ans, le garçon, ben, il a fini par aller dans son pays pour chercher ses parents. À 17 ans. Il a pris en stop. Un jour, il est parti comme ça. Et bon, il est revenu, hein, mais il voulait... Et je crois qu'il a vu sa mère.
Il a trouvé
sa mère. Sa pauvre mère, j'ai dit, mais on était dans la misère. Et Saint-Vincent de Paul, lui, avait organisé à Paris des tourniquets, n'est-ce pas? Et donc, les femmes qui étaient désespérées mettaient leur bébé. Alors, ils mettaient une carte déchirée en deux. Et si elles pouvaient retrouver leur enfant après cette épreuve, ils retournaient pour savoir si l'enfant avait été adopté ou pas. Et donc, ils déposaient le bébé et régulièrement, les religieuses tournaient, spécialement en hiver. Hein. Donc, je sais pas, ils passaient tous les quarts d'heure, hop, il n'y avait rien, hop, et tout d'un coup, oh, un bébé. Alors, les religieuses étaient très très prévenantes. Dans les orphelinats publics, ça rigolait pas. Hein, bon, on est combien aujourd'hui? Le 23 janvier. Bon, 23. André 23, archevêque de Paris, ne serait pas vivant s'il n'y avait pas la possibilité d'accoucher sous X et de donner son enfant. Plutôt qu'il ne meure à un couple. Il n'aurait pas été archevêque de Paris. André, 23. Trouvé le 23 du mois. Ouais. C'est un patronyme. Hein. Ouais. Il y en a qui s'appellent Fête Nat. C'est dans le calendrier. Fête nationale. Né un 14 juillet. Bon. Qu'aimerais-je apporter à nos enfants? Alors. On va avoir bientôt fini.
Alors, moi, j'ai juste petite question.
Allez-y.
C'est un peu embêtant ce soir, mais...
pas du tout, au contraire.
Quand j'apporte quelque chose à mes enfants, moi je pars du principe de base, voilà, je suis pas baptisé.
Mais vous êtes, vous êtes peut-être baptisé.
Oui, peut-être.
Mais il va falloir encore, enrichir votre baptême.
Voilà, c'est encore avec des gros guillemets. Vis-à-vis de nos enfants, est-ce qu'on doit idéalement les éduquer dans la tradition catholique ou est-ce qu'on peut leur laisser quand même le choix de découvrir d'autres religions?
Eh bien, vous voyez, par exemple, on propose une nourriture. Vous leur proposez du lait, du cyanure, de l'arsenic.
Ouais, c'est...
Et de la strychnine. C'est... Donc vous êtes là, vous leur proposez, et là, et si ils vous prennent la strychnine, ça sera un peu rapide. L'arsenic, si vous allez à l'hôpital assez vite, c'est bon. Mais alors, il aura le souvenir du goût. Hein. La ouais. prochaine fois, le biberon avec l'arsenic, il prendra pas. Hein. Donc, vous, si vous croyez en l'action de Dieu, vous lui donnez la vraie religion que vous croyez authentique.
Ok. C'est juste ça.
En matière alimentaire, on est très intégriste. Hein. Il y a des dogmes incroyables. Hein. Le curare, ça sera le curare. Le strychnine, ça sera la strychnine. Et le lait, ça sera du lait. Ça, en matière alimentaire, on est vraiment extrêmement pointilleux en matière dogmatique. On n'a pas envie de refaire les expériences. Oui, le botulisme, si ça se trouve, c'est une bactérie qui est bonne pour la flore intestinale. C'est Pasteur qui dit ça. Alors là, vous prenez une boîte de conserve ronde, vous voyez, 10 ans périmée depuis 10 ans. Vous l'ouvrez. Hein, allez. Eh bien, voyez-vous, si vous croyez que Jésus est celui qui nous a donné l'amour de Dieu, eh bien vous n'allez pas laisser les petits camarades de votre enfant musulman en cours d'école lui dire mais tu sais, les cathos c'est des gros nazes, regarde ton pays de merde, et nous au moins on a une morale.
Moi je n'allais pas jusque là, mais...
Oui, mais c'est...
Non, mais c'était savoir si comment on va formuler
la
question. C'est vraiment, est-ce que l'enfant a un droit de...
À la vérité?
Oui, mais la vérité est catholique pour la,
oui.
la pour nous.
Donc, pas pour nous. La vérité, elle est une. Ou Bouddha est Dieu, ou Jésus est Dieu. Mais... Le syncrétisme religieux consiste à dire que les religions se valent. Mais rationnellement, c'est faux. Il y a forcément ou Bouddha est Dieu, enfin, ou Bouddha est parvenu à la... au vide de l'esprit pour ne plus souffrir, et il a raison, ou Jésus nous dit qu'il y a une récompense après la mort. Mais on ne peut pas être et bouddhiste et chrétien et dire que les deux sont compatibles. Ou on est hindou et on estime qu'il y a toute une cosmologie extraordinaire entre Vishnu et compagnie, et Krishna, avec des guerres incroyables entre Dieu, des machins, des trucs, des... Ou on considère que Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Ou il y a des pogroms de musulmans en Inde, ou des pogroms d'hindous au Pakistan, ou on a une religion qui, a mis des siècles à surmonter la violence humaine, mais est parvenue à éloigner largement les disputes entre protestants et catholiques jusqu'à nous entretuer. Et ça, c'est l'homme. C'est pas écrit dans l'évangile de s'entretuer. De la même façon, voyez-vous, dans les croisades, les musulmans avaient pris les lieux saints, massacraient les chrétiens palestiniens et libanais qui devaient se réfugier dans les montagnes. Et donc, ils se sont plaints auprès des communautés chrétiennes européennes. Ils ont dit, vous nous laissez mourir. Alors, à cette occasion, les chrétiens sont allés secourir les chrétiens d'Orient, dont on parle de nos jours quand même. Quand les chrétiens irakiens et syriens ont été massacrés, on a un peu réagi. Alors, on ne parle pas de croisade. Certains ont parlé de croisade, mais bon. Mais ça n'empêche que vous avez les Vénitiens qui, allant vers l'Orient, ont trouvé le port de Constantinople et qui se sont dit, si on fout en l'air le port de Constantinople, on aura plus de bateaux à Venise. Mais ça n'a rien à voir avec les croisades et les chrétiens d'Orient. Vous avez un duc franc qui arrive à Alep, qui dit tiens, ben, ça fait, je suis tellement loin de ma seigneurie que ça serait pas mal que je reste ici et que j'ai une ville pour moi. Il y en a un à côté qui est pas content et qui s'entretue en rase campagne entre deux petites armées franques. Ça s'est vu, hein, pendant les croisades. Hein. Rarement, hein, mais il y a eu à un moment donné de la jalousie pour prendre un lopin de terre. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec les croisades. D'ailleurs, Godefroy de Bouillon était un homme extrêmement pieux et intègre, qui était respecté par les musulmans. Il disait aux musulmans, vous nous foutez la paix, simplement. On est là pour que vous nous foutiez la paix. Et les négociations, à la fin, dans les croisades, on a eu ça. Et à la fin, on a fait comprendre aux musulmans, laissez-nous accéder au lieu saint et laissez les chrétiens en dimitude sans les tuer. Ils se sont tellement souvenus de 200 ans de croisade qu'ils ont dit, bon, on va peut-être pas leur faire revenir les Européens, on va laisser les chrétiens d'Orient tranquilles. Au point que vous avez les autorités irakiennes ou syriennes qui font très attention, ou jordaniennes, qui disent, les chrétiens n'y touchent pas. C'est des mercenaires délirants qui ou en Irak ou en Syrie, ont tué les chrétiens. Mais c'est pas les Syriens eux-mêmes, ou c'est pas les Irakiens eux-mêmes. Parce qu'ils ont une vieille tradition, maintenant, enfin voilà, on laisse la minorité chrétienne tranquille. Mais si vous voulez, nous, dans l'éducation des enfants, on doit, en toute honnêteté, non pas croire que notre religion est notre religion culturelle et historique, nous devons toute notre vie confronter notre foi chrétienne aux autres religions pour savoir où est la vérité. Ça, c'est la vraie démarche religieuse. Si vous croyez que le judaïsme a raison et que Jésus était finalement une erreur, malgré le fait que la religion juive se soit diffusée dans toute sa tradition à des multiples peuples, alors vous pouvez devenir prosélyte juif. Mais un juif qui découvrirait que Jésus est son Messie doit devenir chrétien.
D'accord. Et par exemple, la confirmation.
Oui.
Ils sont censés confirmer notre baptême quand on est
oui.
baptisé.
Oui.
Enfin, ça devrait vraiment être une démarche hyper personnelle. Et enfin, moi, dans mon cas, en tout cas, c'était à l'école. On suivait tous comme on, qui veut se baptiser.
Non, non, non. La confirmation n'est pas, comme son nom l'indique, confirmer la foi d'une personne qui a du recul. La confirmation, vous savez quel est l'âge de la confirmation en Orient?
Non.
Bébé.
D'accord.
Et en Occident, 8 ans. Et pourquoi? Parce que 8-10 ans, vous commencez à avoir vos premiers authentiques caprices indépendants et libres. Et donc, la confirmation, c'est demander à l'esprit d'amour du Père et du Fils de nous conforter dans la foi et la vérité, et la bonté et la charité, avant que l'on déconne par la pré-adolescence et l'adolescence. En fait, la confirmation, on demande à Dieu de conforter sa présence qui est liée au baptême. Et le baptême des bébés, c'est pour immédiatement donner une lumière intellectuelle à l'âme, qui est une participation à la nature divine. Mais ça, c'est du pur surnaturel. Hein. On recommande à Dieu les bébés non baptisés, les bébés hindous, les bébés musulmans, les bébés bouddhistes, les bébés aborigènes, les bébés animistes, les bébés shinto, parce que on ne sait pas comment Dieu travaille en eux, nous on sait. Mais comme Dieu aime tous les êtres, et que ce qui manifeste aussi quand même la vérité du Messie Jésus, c'est que vous avez quand même des chrétiens de toutes les races et de toutes les cultures. C'est quand même étonnant. Avec toute la propagande du bouddhisme tibétain qu'il y a eu, des films, des conférences, le frère du cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux, qui s'est fait moine bouddhiste, qui a un culot mais incroyable, qui présente le bouddhisme comme si c'était une philosophie merveilleuse de paix et tout ça, alors que c'est une austérité profonde, le bouddhisme, le vrai bouddhisme, pas le bouddhisme pour les cadres, hein, pour qui, d'accord, le bouddhisme originel et historique, hein, ça rigole pas du tout. Le Dalai Lama est là, aimez-vous les uns les autres, tu parles. Si vous n'êtes pas de telle caste, tout ça, au Tibet, vous faites une merde. Hein. Donc, voilà, hein, doucement les basses. Mais c'est tellement sympa devant les journalistes. Mais alors, voyez-vous, en conscience, nous devons toujours comparer les religions. Au risque même de perdre la foi chrétienne. Mais la foi chrétienne a le culot de dire... chiche, on est les meilleurs. Et comme ça fait quelques décennies qu'on ne le dit plus, on dit ah ben non, on a été méchants, il y a eu les guerres de religion, il y a eu les croisades, il y a les guerres de religion, on est des gros nuls. Et vous savez ce qui se passe à la fin à Sarcelles? L'institutrice dit alors, bon, c'est la laïcité, tout ça, mais bon, vous avez quand même des petites appartenances de communauté à Sarcelles. Alors, qui est juif? Moi. Qui est arménien? Moi. Qui est chaldéen? Moi. Qui est musulman? Moi. Qui est catholique, chrétien, catholique? Ah, elle dit, mais toi quand même, Paul, ah non, moi je ne suis rien. La vache. C'est à force de leur dire, mais vous savez, il faut être super tolérant, l'islam est mal présenté, vous savez, c'est une religion merveilleuse, faut lire le Coran, hein. Moi, j'ai lu le Coran, entier. Hein. 600 ans après Jésus-Christ, je vous assure que je ne pensais pas qu'il y aurait une telle série de malédictions, de condamnations, sans pitié, hein. Au nom du Dieu miséricordieux, tout ça, quand les pierres vous diront où sont vos ennemis pour que vous alliez les tuer. C'est un chef de guerre, hein, Mahomet. Il a fait la guerre toute sa vie. Et dans les hadiths qui parlent de sa vie, il a, à un moment donné, il y a un village qui s'était révolté contre lui, il a égorgé tous les hommes, tout seul, avec ses officiers tranquille comme ça, et lui tchoum tchoum tchoum, il l'avait trahi. Et puis quelques jours avant, dans la bataille pour reprendre le clan, il s'était pris une flèche dans la mâchoire, il l'avait mauvaise, hein. C'est un homme, si vous voulez, comment dire, l'Arabie Saoudite applique le Coran. Et bon, eux, pour l'instant, on fait de la diplomatie, tout ça, enfin, mais ça rigole pas. Hein. Ensuite, actuellement, vous avez des conversions de musulmans, puisque les cathos font pas leur boulot, les évangélistes, eux, sont un peu plus courageux et leur parlent de Jésus. Et bien, vous avez des apparitions de Jésus, vous avez des apparitions de la Vierge Marie à des musulmans. Des gens qui arrivent, ils disent, j'ai vu Jésus. Ils disent, bon, il est dingue. Mais non, il n'est pas dingue. Et voilà, toc, et puis on les baptise au bout de 2 ans.
Ça révèle à lui, quoi.
Ben oui. Ah ben, franchement, si Jésus a besoin de faire des apparitions à des personnes parce que nous, on fait pas notre boulot par syncrétisme, non mais non, chacun sa religion, on est très bien, on est tous bien, c'est quand même embêtant. Vous avez un imam comme ça en Afrique noire musulmane, il a un songe, il voit l'église du bourg, quoi. Et la voix lui dit « Je suis là ». Dans les jours qui suivent, il arrive à la mission et dit « Dieu m'a dit qu'il était chez vous ». Vous êtes l'imam de la mosquée. Ça va être difficile. Vous pouvez venir la nuit. On peut parler, hein. Donc, au bout d'un certain temps, il a été baptisé mais exfiltré, quoi. Il ne veut plus rester au village. Mais c'est assez impressionnant. Alors, pour vous emboucher un coin, Notre-Dame de Liesse, en France, 13e siècle, c'est une princesse égyptienne convertie qui accompagne une statue de la Vierge Marie. Notre-Dame de Lourdes, c'est un prince musulman dans les Pyrénées qui, à la suite d'un miracle, demande le baptême. Lourdes, ça veut dire fleur en arabe. Notre-Dame de Guadalupe au Mexique, c'est un lieu dit en Espagne. Guadalupe, ça veut dire fleuve de lumière en arabe. Et la Vierge Marie apparaît dans une paroisse appelée Guadalupe à Mexico. Et Guadalupe, ça veut dire c'est de l'arabe. D'ailleurs, c'est amusant. L'île de Guadeloupe, où il y a 95% de chrétiens, c'est un nom arabe. Voilà. Ensuite, vous avez Notre-Dame de Fatima au Portugal. C'est une princesse arabe musulmane qui est devenue chrétienne et qui a donné son nom à la plaine. C'est amusant que la Vierge Marie, à Lourdes, à Fatima, à Mexico, s'amuse à une sorte de prophétie, hein, il y a quelque chose. On verra bien. Du coup, quel témoignage de notre amour en couple voudrions-nous donner ? Accueil, ouverture aux autres, joie, équilibre. Qu'aimerions-nous transmettre aux autres ? Sommes-nous déjà engagés dans des œuvres au service des autres ? Envisageons-nous cela en couple ? Quelles pourraient être les attentes de la société pour notre couple, avec un S ? Les attentes de l'Église, paroisse, mouvement. Alors moi, je vous conseille surtout de faire une retraite. Et vous avez à la fin toute une série d'adresses. Vous avez de faire quelques jours les Carmes d'Avon, les Jésuites, les Foyers de Charité. Essayez de partir tous les deux pendant un samedi dimanche. C'est en général un week-end. Oui. Vous avez à Clamart. Alors, ils sont moins intégristes que moi, hein, donc sauf les chanoines de la Grâce, où là, eux, ce sont des intégristes. Alors, ils sont gentils, hein. Ils sont reconnus par le diocèse. Hein. Chanoines de la Grâce, mais sinon, les autres, vous pouvez... Foyer de Charité, c'est Jean-Paul II. Les Carmes, c'est catholique. Les Jésuites, ça peut être... on pourrait vous dire, oh, vous pouvez... pas vu, pas pris, quoi. Voilà. Vous voyez, j'aime bien ma liberté de parole, j'ai rien à perdre. Et... Voilà. Avez-vous des questions? Alors, on va commencer à prendre les rendez-vous individuels. Hein. Ah. Voilà.
Pas par couple, individuel.
Par couple, et il faut que je vous rencontre seul, une fois, pour que vous disiez, ah non, je suis obligé, mais que faire, comment m'en sortir, voilà. Pouvez-vous m'aider à lui dire que je ne veux pas, mais je ne peux pas, voilà. Rendez-vous individuel, parce que si on voit en couple... Vous voyez, mais bon, vous avez tous l'air d'être très bien dans votre peau. Mais dès qu'un prêtre s'aperçoit qu'il n'y en a qu'un qui parle, Par exemple, nous, moi, au jour des mariages, je risque ma vie de temps en temps quand un prêtre, n'ose pas refuser un mariage parce qu'il y a un musulman et une chrétienne. Et que le musulman parle, la chrétienne elle est là. Et donc, là il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Elle est toute heureuse d'être soumise. Top. Donc, le prêtre envoie le dossier et au bureau des mariages on dit non. Donc il a du mal à trouver l'adresse, tout ça, pour aller à la maison diocésaine. Voilà, mais au moins le prêtre local dit « Ah, on a fait ce qu'on a pu, hein, mais
c'est pour rien,
c'est le diocèse qui a dit non. » Voilà.